stop you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Como, Boris Pino, que je remarie à Lucille Como. Bah écoutez, c'est comme ça. Boris Pino, donc, pour l'instant. Et Sarah Dion, prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan et réalisation Philippe Baudouin. Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Étienne de Montetti et Laurent Nunez. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Un autre sommaire, Sérotonine de Michel Houellebecq. Beck chez Flammarion, ça va être très difficile ce soir. Crac de Jean Rollin chez POL, Antonia de Gabriella Zalapi chez Zoé. Un coup de cœur d'Étienne de Montetti pour La vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli chez Grasset. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour découvrir le musée de l'armée et ses expositions. C'est à l'Hôtel National des Invalides à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un livre passé tout à fait inaperçu. Heureusement que la dispute est là. Je veux parler de Sérotonine, un certain Michel Houellebecq, septième roman de son auteur. J'ai 46 ans, je m'appelle Florent Claude Labrouste et je déteste mon prénom, je crois qu'il tient à son origine de deux membres de ma famille que mon père et ma mère souhaitaient, chacun de leur côté, honorer. C'est d'autant plus regrettable que je n'ai par ailleurs rien à reprocher à mes parents, ils furent à tous égards d'excellents parents, ils firent de leur mieux pour me donner les armes nécessaires dans la lutte pour la vie, et si j'ai finalement échoué, si ma vie se termine dans la tristesse et la souffrance, je ne peux pas les en incriminer, mais plutôt un regrettable enchaînement de circonstances sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, et ce qui constitue même, à vrai dire, l'objet de ce livre. Je n'ai, quoi qu'il en soit, rien à reprocher à mes parents, mis à part ce minime, ce fâcheux mais minime épisode du prénom. Non seulement je trouve la combinaison Florent-Claude ridicule, mais ces éléments en eux-mêmes me déplaisent. En somme, je considère mon prénom comme entièrement raté. Florent est trop doux, trop proche du féminin Florence, en un sens presque androgyne. Il ne correspond nullement à mon visage aux traits énergiques, sous certains angles brutaux, qui a souvent, par certaines femmes en tout cas, été considéré comme viril, mais pas du tout, vraiment pas du tout, comme le visage d'une pédale bodhicellienne. Quant à Claude, n'en parlons pas, il me fait instantanément penser aux Claudettes. Et l'image d'épouvante d'une vidéo vintage de Claude François repassée en boucle dans une soirée de vieux PD me revient aussitôt dès que j'entends prononcer ce prénom de Claude. Dites-lui que j'ai peur pour elle, je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur pour Michel Houellebecq, Laurent Nunez, en lisant Sérotonine, paru chez Flammarion?
Bah, si c'est une autobiographie, on a quoi avoir un peu peur. Mais c'est presque pas une blague, cette notion d'autobiographie ou quoi. Ce qui est intéressant dans les romans de Houellebecq, c'est qu'il est à peu près incapable de changer de narrateur et que donc, à force, on se demande si on est... Qui parle là-dedans? Quel est ce narrateur étrange qui est toujours le même, misogyne, homophobe, hanté par la pulsion sexuelle et par la misère sexuelle, voilà, qui rêve d'autre chose, qui rêve de croire en quelque chose et qui ne croit en rien. On n'est pas du tout déçu quand on aime Houellebecq, parce qu'on y trouve exactement les mêmes choses que dans les précédents Houellebecq. Et Et du coup, on est déçu quand on attend autre chose.
Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans celui-ci, Laurent Nunez? La liste, ça pourrait nous faire l'émission. Hein.
Ouais, ouais, la liste pourrait nous faire l'émission. Disons que c'est une sorte de jeu de massacre, puisque tout le monde en prend pour son grade. Mais ça qui est assez étrange. Moi, j'ai du mal à comprendre le grand succès de ce livre, parce que finalement, ce sur quoi tape Paul Beck, j'entends régulièrement tout le monde taper dessus. C'est-à-dire que un livre où tout le monde applaudit et qui ricane, parce que c'est pour moi c'est un énorme ricanement, long comme sur 400 pages, mais qui ricane autant à la fois sur Buffy et sur Kev Adams, parce qu'il faut le dire, c'est ça, à la fois sur Catherine Millet et Christine Angot,
et Maurice Blanchot,
et France Culture et Maurice Blanchot, voilà, ouais. qui ricane de l'intelligence ou de la complexité de la pensée de Blanchot dans une émission de France Culture. J'ai pas attendu Houellebecq pour ricaner bêtement dans mon coin de ça. Donc je suis très surpris par ce livre qui n'est pas du tout un livre dérangeant. C'est un livre assez petit bourgeois.
Étienne de Montetti, premier regard sur ce Sérotonine de Michel Houellebecq.
Non, je constate que Michel Houellebecq doit être une sorte de drogue dure, c'est-à-dire qu'inconsciemment on attend du prochain Houellebecq quelque chose qui irait encore plus loin que ceux où il est allé dans ses livres précédents. Et là, peut-être qu'on est un peu déçu à cet égard. Si on avait pensé qu'il transgressait des choses dans les précédents livres sur, je sais pas quoi, l'islam, le clonage, enfin tous ces thèmes qu'il avait choisis dans ses précédents livres, évidemment là c'est quelque chose d'un peu plus banal, qui est la recherche du bonheur par un homme moyen à tous égards, âge moyen, classe moyenne, intelligence juste un peu au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Houellebecq va explorer le quotidien de cet homme avec un narrateur, ce qui lui ressemble et ce qui ne lui ressemble pas, où est le décalage. Il n'a pas 46 ans et il n'a pas la description physique à peine avantageuse qui a été lue au début de notre propos. J'ai trouvé que la première partie du livre était très paresseuse, justement parce qu'elle se répétait beaucoup dans une surreprésentation de la sexualité et notamment de quelque chose qui pour moi est un peu pénible, c'est dans une surreprésentation quasi anatomique, qui est évidemment un procédé qui peut déplaire et qui moi me déplaît. En revanche, j'ai trouvé que le livre s'animait véritablement à son arrivée à la campagne, avec cette irruption dans l'univers de cet ami de l'agro qui a repris une ferme. Non pas que ce soit original, hein, de fait ce sont des thèmes qui se promène, et la grande misère des agriculteurs, on n'a pas attendu un romancier pour s'y intéresser, mais à l'aune de cette recherche du bonheur, ça m'a intéressé, j'ai aimé ce personnage là qui s'appelle Emeric, qui est assez touchant et assez malheureux, qu'il est véritablement et prolonge davantage que le narrateur, qui a une sorte de complaisance à l'égard de son propre malheur. J'ai été assez fasciné par le rapport que Houellebecq établit entre la masculinité et les armes à feu. J'étais assez effaré d'ailleurs, et assez surpris, assez intéressé. Le ricanement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ironie quand même. Alors les sujets sont divers, évidemment, il y en a certains qui sont convenus, d'autres moins. Mais ça c'est le ton de Houellebecq, si on n'aime pas ce ricanement, c'est ce qui fait l'ensemble de son âme. Moi ce qui me surprend toujours, c'est les gens qui me disent « Ah mon Dieu, où sont les particules élémentaires ?» Mon Dieu, ce ton-là, il est dès le départ, donc on aime ou on n'aime pas. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire.
Plein d'autres choses. Je reviens vers vous, on n'a pas encore entendu Elisabeth Philippe sur Sérotonine.
Oui, Sérotonine, effectivement, Laurent le disait, Houellebecq se répète, il traite à un moment, enfin son narrateur qualifie Goethe de vieux radoteur. Je pense que Houellebecq, qui nous sert ici un peu les souffrances d'un vieux Werther à travers son personnage, radote tout autant que Goethe. Certes, avec un certain génie, il a l'art quand même de décrire ce glissement dépressif, cet anéantissement d'un personnage et d'une civilisation. Enfin, ça c'est sa vision, hein, avec des aphorismes très schopenhauriens, des phrases parfois parfois à la mélancolie irrésistible. Je pense notamment à celle-ci, le matin du 1er janvier se leva comme tous les matins du monde sur nos existences problématiques. C'est du Houellebecq pur sucre, on peut y être sensible. Il n'a pas son pareil non plus pour évoquer la société de consommation, l'abondance de houmous, de différentes variétés dans les supermarchés. Effectivement, saisir certains aspects du contemporain comme Kev Adams, même si, à mon sens, la plus grande erreur qui est faite lorsqu'on parle de Houellebecq, c'est de dire que c'est un visionnaire. Là, en ce moment, le refrain, c'est de dire « Ah, il avait prévu les gilets jaunes ». Excusez-moi, on parle d'une révolte d'agriculteurs, il y en a depuis 50 ans, c'est totalement absurde. Là, si être visionnaire, c'est prévoir le passé, ça même Elisabeth Tessier peut le faire, donc je ne vois pas bien l'intérêt là-dessus. Et en plus, pour moi, ce livre est d'une très grande ringardise, est extrêmement daté. Donc ce qui pouvait choquer un peu au début, et auquel je pouvais même être sensible, je veux dire, dans les particules élémentaires, là, ce n'est plus possible, ce n'est plus lisible. Ce dont vous parliez tous les deux, Laurent et Étienne, cette façon de décrire les femmes, de décrire la sexualité, de réduire les femmes à leur chatte. Je reprends les termes de Houellebecq. Là, dans l'extrait que vous avez lu, Arnaud, on a Lopette, PD, et ça, c'est comme ça sur plusieurs pages. C'est une vision totalement phallocentrée du monde, et c'est vraiment extrêmement périmé. Laurent a raison, ça ne choque même plus, simplement extrêmement lassant. C'est extrêmement ringard. Il y a des scènes de sexe, on a l'impression d'être dans SAS ou dans du Harlequin un peu hard, ou alors dans le pire des cas, dans des clips de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Didier Barbelivien et Félix Gray. Là, il y a cette scène dans la station-service où le narrateur se retrouve face à deux jeunes Espagnols affriolantes avec des micro-brassières. Alors, il leur gonfle les pneus. Et puis, alors, la légèreté de l'humour de Houellebecq, ça devenait de plus en plus dur. Ah, ah, ah. Et des blagues comme ça qui sont lourdes sur la marque d'une valise, Zadig et Voltaire, mais je ne sais plus si c'était Blaise ou Pascal. Et il en est tellement content, il l'a répété trois fois. Enfin, c'est extrêmement pénible. Et cette esthétique datée, elle se retrouve même dans l'écriture, où il y a une surabondance de prolepse. Mais nous y reviendrons, j'y reviendrai plus tard. Et à chaque fois qu'il doit aborder des sujets plus techniques, il passe par des très très longs dialogues. Donc même s'il y a des morceaux de bravoure, ou des morceaux assez amusants, ou voilà, assez réussis, je trouve que c'est lesté par cette esthétique très 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 datée.
Alors moi, je partage avec vous toutes ces réserves qui sont plus que des réserves, Elisabeth Philippe, mais quand même, m'a-t-il semblé, ces réserves-là concernent ce que disait Étienne de Montetti. J'ai un peu vécu la même chose, beaucoup le début du livre, et c'est quand même dommage que le début de Sœur Étonnée soit aussi plombant, plombé. J'avais vraiment envie de balancer le livre, enfin j'ai pas du tout envie de lire ces descriptions de l'atomique auxquelles faisait référence Étienne, cette vulgarité pour la vulgarité, le bon mot, enfin c'était du sous-bec BD quand même, enfin c'était ce niveau-là, et malgré tout moi j'ai quand même vécu plusieurs états successifs de lecture, et il y a quand même des choses qui m'ont davantage touché, mais par instant, il y a encore des fulgurances qui restent, mais le tout dans quelque chose de très lourd, de très...
Mais qui est assumé, me semble-t-il.
Très lourde.
C'est-à-dire que tout a l'air absolument assumé. Non, mais Houellebecq présente ça comme un effet de repoussoir.
Étienne de Montetti.
Comme un effet de repoussoir. Il n'y a aucune complaisance à l'égard de cette vie. Il présente un personnage... probablement ringard,
mais c'est assumé.
Je crois pas qu'il y ait de
complaisance.
Mais je crois pas qu'il y ait de complaisance pour ce personnage qui n'est pas très enviable et qui cherche quoi? Qui cherche le bonheur à travers tout ce qu'on vient de dire, à travers la médication.
Mais s'il n'y avait pas de complaisance, la fin serait pas aussi quand même poignante, parce que moi je trouve que c'est assez beau ce que lui dit le docteur Hazard quand il dit vous êtes en train de mourir de chagrin.
Et puis
il y a quelque chose de beau qui se passe à ce moment-là.
Il cherche une métaphysique, me laisse à penser que tout le reste était présenté comme quelque chose à fuir et à détester.
Laurent Nunez ?
Non, je sais pas, moi la fin m'a au contraire extrêmement déçu. Enfin, j'ai appris comme dans
la
une chanson de...
toute fin, autre chose, mais voilà, il y a un moment comme ça.
Parce que j'ai appris comme dans une chanson de Céline Dion que l'amour existait encore, là, tout à la fin, les dernières pages. Moi, j'ai qui est quelque chose qu'on retrouve dans les poèmes de Houellebecq.
Oui, oui.
Étonnamment, voilà, c'est une sorte de romantisme très, très cotonneux, très, très doux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le titre. La sérotonine, normalement, c'est une sorte d'hormone du bonheur. Et normalement, actuellement, les médicaments ne peuvent qu'empêcher sa recapture. C'est presque un démarrage de science-fiction. On invente un médicament qui permet de produire de la sérotonine. Et je crois que tout le livre, là, fonctionne comme ça, comme un rêve de produire, alors qu'en fait, il ne fait que recapturer. Et Elisabeth l'a dit, ce n'est pas un livre sur le futur, c'est un livre qui ne fait que capturer le réel. On traîne même plus les valises, on traîne les Samsonites. Il y a des noms partout, on boit du coca, on est, le réel est complètement, est partout, et Houellebecq, qui, je vous rappelle, son premier livre, c'est quand même sur Lovecraft, sur la science-fiction, est incapable de sortir du réel. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il le déteste autant. C'est peut-être pour ça qu'il le critique autant. Il est incapable de sortir du réel, de proposer dans ses livres autre chose qu'une description, au-delà du pessimisme, de cette réalité, alors que visiblement, il voudrait aller vers Lovecraft.
Oui, mais ce que vous dites là, c'est aussi, pour partie, ce qui est dit dans le dernier chapitre, vous parlez tout à l'heure, je crois, de complaisance pour son propre malheur, c'est une complaisance médicamenteuse, c'est le Captorix. Qui est responsable de son état, qui décrit à la toute fin, Michel Houellebecq, je ne vais pas refaire une autre lecture. Elisabeth Philippe.
Oui, ce que dit Laurent, il est toujours collé au réel, mais même le réel qu'il décrit est daté. Remarquez qu'il n'est jamais question d'Internet dans ce livre.
Les questions de la France insoumise et de la République en marche, tout de même.
Non, mais c'est quand même fou, c'est quelqu'un qui absorbe le réel.
Que le narrateur mélange.
Uniquement par la télévision, par le prisme de BFM. Bon, ça, c'est à la limite,
c'est un public Sénat.
Il fait des recherches sur Internet, me semble-t-il, pour ses médicaments, justement. Mais peu importe, ce personnage est ancré dans une réalité, et une réalité qui nous fait haïr, effectivement, mais qui nous fait absolument pas. Il n'y a pas une célébration de cette médiocrité, de cette surconsommation, d'une consommation triste. Tout ça est quand même traversé par une ironie, voire une condamnation assez ravageuse. On a envie de s'en sortir, de sortir de cet univers-là. On n'a absolument aucune envie de rejoindre la Brouste. Ça me paraît la meilleure nouvelle de ce livre. Il y a un effet repoussoir qui est assez intéressant et qui, me semble-t-il, est une des malices de Houellebecq.
Je pense que c'est plus ambigu que ça. Je pense que plus
ambigu que ça, parce que sinon, ce sera un tout petit peu appuyé.
Chez Houellebecq, notre guide spirituel.
Bien sûr, on peut toujours dire que l'ambivalence fait l'œuvre d'art. Mais en ce qui concerne la complaisance et l'éternel débat suscité par l'œuvre de Houellebecq, est-il en accord avec son narrateur ou non, etc. Mais il faut quand même voir que le problème principal de son narrateur, c'est il est dépressif parce qu'il n'a plus de vie amoureuse. Il prend donc ce médicament qui l'empêche d'avoir du désir. Donc parce qu'il ne bande plus, le monde s'effondre. Et ça, c'est quand même la vision, je pense, au cœur même du livre. Enfin, c'est ce qui. À partir du moment où l'homme est ce parangon qui est le vieux mâle blanc, là, j'en parle en termes de concept, hein, en tant que personne, ne bande plus, ça serait la fin du monde. Mais ça, je pense que c'est la vision centrale de Houellebecq et qu'il y adhère. Ça, c'est un postulat de départ qui n'est plus audible, enfin, je veux dire, qui est totalement révolu. Et je pense que ça grève terriblement son écriture.
Laurent Nunez.
Le livre est raté parce qu'il n'a pas obéi à ce titre. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est un narrateur houellebecquien vraiment sous antidépresseur. Là, ça m'aurait fait hurler de rire. Là, vous rendez compte que le livre est censé être écrit par quelqu'un qui prend des doses maximales d'antidépresseurs.
Ça marche pas très bien.
Ça ne marche pas très bien. Il faut tout de suite arrêter ce médicament. Par contre, un vrai livre, il y aurait une opposition entre un narrateur qui n'en prend pas, comme au début, et un narrateur de Houellebecquien qui, du coup, se rigole des choses qu'il vient de moquer 100 pages avant. Là, il y aurait une vraie construction. L'ironie aurait été beaucoup plus visible. Là, c'est compliqué de voir l'ironie. Il y a aucune porte de sortie. On est enfermé dans un monde où on sait pas comment on fait pour s'en sortir. Personne ne nous montre une voie de salut possible.
Ouais, on a l'impression qu'il n'a que des effets indésirables, ce médicament, et aucun qui soit désirable. Étienne de Montetti.
La porte de sortie, c'est la dernière page. La porte de sortie, c'est la dernière page.
Mais peut-être que c'est
le pari pascalien.
Oui, mais qui est déjà très présent dans le début du livre. Le Christ est très présent.
Dieu
est très présent.
Dieu est effectivement. Et c'est assez inouï, parce que c'est une page qui tombe comme ça, c'est la porte de sortie, quand même.
Ouais.
On en reste quoi?
Pour moi, c'est vrai. Elle est un peu Deus Ex Machina, les façons clore, en satisfaisant à peu près tous les lecteurs possibles. Pour moi, j'ai parfois l'impression qu'il a coché toutes les cases pour plaire et pour déplaire à tous les lecteurs.
Oui, y compris avec un passage assez bref, mais alors, évidemment, chacun est sensible à des choses différentes, mais. Ou un regard sur un pédophile qui est.
Bah, cette scène, par exemple, pour moi, elle pose problème. Il y a une forme de complaisance là.
Là, moi,
elle n'a aucun enjeu dramatique, dramaturgique. Elle est là de toute façon totalement gratuite et elle est très
douteuse.
Ouais, très très douteuse.
Bon, on a partagé cette même lecture, Elisabeth Philippe. Mais c'était un des nombreux exemples qu'on pouvait prendre sur ce livre. Mais en tout cas, c'est vrai que. La drogue dure, je ne sais pas, mais ça fait plusieurs jours dans les couloirs de cette maison. Alors, vous en parlez quand du nouveau Houellebecq? Enfin, on a quand même peu l'occasion de.
Je crois que tout le monde attendait la boule puante ou la grenade dégoupillée.
on l'attend
auquel
quand même,
il nous avait habitués, etc. Et alors, est-ce que c'est une bonne lecture de l'évêque? J'en suis pas sûr, parce que je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit l'abbé tout à l'heure. Il n'y a rien de visionnaire.
C'est la grenade et
on nous explique plutôt qu'il avait prévu Charlie Hebdo, etc. Mmh. Enfin, il y a quelque chose d'un peu fou. Non, il décrit un réel, selon tout ce qu'on vient de dire, etc. Et c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà intéressant.
Sérotonine, mon cas vous l'auriez oublié, c'est le titre de ce livre de Michel Houellebecq qui vient de paraître chez Flammarion. À suivre dans la dispute, Jean Rollin, Gabriella Zalapi et Jérôme Bastianelli.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Crac de Jean Rollin. Je sais pas où alors. Crac, c'est pas pour le bruit ou l'onomatopée ou quel est le mot qui conviendrait d'ailleurs.
Quoique.
Onomatopée.
Oui. Oui, j'avais un autre mot en tête. Oui, d'accord. Ok. Mais en fait, c'est pas ce crac là dont il va s'agir.
Aussi,
mais
peut-être
pour
aussi.
Mais ah, mais j'essaye de brouiller les pistes. Vous commencez déjà.
C'est
pas pour la drogue. Il y a pas de cas à la fin.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il faut vraiment dire pourquoi il faut lire Jean Rollin après Britney Spears? Cette fois, c'est Laurence d'Arabie. Donc, quelqu'un qui a des goûts aussi sûrs et aussi éclectiques, forcément, ne peut être qu'un grand auteur. Bon, ça, c'est, je n'engage que moi pour l'instant.
لماذا تخاف شموخ النساء وتعرف أن قلبي عزيز ولم أتعود على الانحناء.
Entre Laurence et moi, il y a au moins ceci de commun qu'à un peu plus d'un demi-siècle de distance, nous avons passé l'un et l'autre une partie de notre enfance à Dinard. Lorsque j'ai découvert cette coïncidence à la lecture des lettres de Laurence, traduites par Etiambe et publiées chez Gallimard en 1948, ce qui m'a le plus frappé, outre le fait que nous ayons vécu dans la même ville, dont la taille n'est pas telle que beaucoup de gens puissent en dire autant, ce fut de constater, au terme d'un rapide calcul, qu'entre le séjour dinardais de Laurence et le mien, il ne s'était pas écoulé plus de temps, et peut-être même un peu moins, qu'entre cette période de mon enfance et le moment présent. Et comme il s'est produit à Dinard moins de changements, ou des changements moins visibles entre la fin du 19e siècle et le milieu du siècle suivant qu'entre cette époque et la nôtre, il est vraisemblable qu'entre la ville actuelle et celle de mon enfance, il y a plus de différences qu'entre cette dernière et la ville qu'a connue Laurence. Ce qui revient à dire que Laurence et moi, nous avons connu presque la même ville et exactement au même âge par surcroît. Lorsque la famille de Ned, le petit nom de Thomas Edward Laurence, s'y établit en 1891, suivant l'opprobre dont elle fait l'objet en Grande-Bretagne suite à l'inconduite du père qui, quelques années auparavant, a déserté son épouse légitime pour disparaître avec la gouvernante de ses filles, lorsque la famille illégitime s'y établit, la station balnéaire de la Côte d'Émeraude est déjà au fait de sa gloire, en particulier auprès du public d'outre-Manche. Elle dispose même d'une petite église anglicane sur les bancs de laquelle il m'est arrivé assez souvent de m'asseoir en dehors des offices. Et les aménagements dus au comte Rokaïd Dada, un milliardaire libanais, lui ont conféré l'essentiel de ce qui fait aujourd'hui encore son charme désormais suranné. Pourquoi une chanteuse syrienne alors que je parle de Dinard? Parce que vous imaginez bien, si vous connaissez Jean Rollin, et vous allez le comprendre si vous ne le connaissez pas, on se doute bien que Jean Rollin ne reste pas à Dinard pour écrire ce livre et qu'il va retourner dans une région du monde qu'il a, comme beaucoup d'autres, beaucoup fréquenté, ce Moyen-Orient, sur les pas de Laurence. Étienne de Montetier, vous commencez à nous parler de ce livre de Jean Rollin?
Oui, qui est un livre d'une richesse assez incroyable. Effectivement, on part de Dinard, on va arriver en Jordanie, on va se promener en Syrie, on va se promener au Liban sur les traces des fortifications laissées essentiellement par les croisés, le fameux crack des chevaliers, donc cette fortification, considérant que Laurens était un grand spécialiste, il aimait énormément les châteaux forts, que ce soit ceux de France, de Grande-Bretagne ou ceux du Moyen-Orient, puisqu'il avait commencé à explorer au début du XXe siècle tous ces châteaux. Il en a fait une thèse. Il était spécialiste de polyorcétique, je crois. C'est l'art des fortifications et des sièges. Et c'est sur ce... Je veux dire cette petite caractéristique, Laurens, les châteaux forts du Moyen-Orient, que Rollin va partir en promenade. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas imaginer ni une réflexion raisonnée sur Laurens et sa passion pour les châteaux ou la guerre. Il faut pas imaginer une promenade touristique. C'est une incroyable divagation, enfin ou vagabondage qui nous conduit de propos extrêmement savants, tiré des meilleurs livres sur le sujet. Mmh. Il a lu assez abondamment, parce que je suis allé jeter un œil, la correspondance de Laurens et retrouvant un certain nombre d'éléments. Également tous les érudits qui, depuis un siècle et demi, se sont penchés sur ces lieux. En arrière-plan, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que ce sont, notamment en Syrie, un pays en guerre. Et donc, il y a cette espèce de va-et-vient incroyable où une sorte de Rollin reporter, comme on dirait Tintin reporter, se promène pour faire des choses extrêmement sérieuses, visiter ces châteaux, leur histoire, et également comment dire, établir une sorte de lien un peu curieux, un peu insolite, entre ces promenades, ces visites, ces rencontres avec des Syriens, avec des Libanais, avec des Jordaniens qui lui parlent de ces lieux. Et puis, évidemment, le contexte politique est celui de la guerre, comme à l'époque des croisades, de la présence franque, de Saladin. Et tout ça crée une sorte de promenade où Rollin est au milieu du propos, d'ailleurs, de manière inattendue. Parfois, il nous fait part de sa propre incapacité à parler de quelque chose, d'un détail qu'il a cherché, qu'il n'a pas trouvé. C'est un livre très étrange, où il faut accepter que Rollin nous promène. Et je finis juste sur son dernier livre qui s'appelait Le Traquet kurde. C'était une réflexion sur la guerre, expliquée par l'ornithologie. Et c'est sa meilleure veine, celle-ci. D'ailleurs, les oiseaux ont un joli rôle à plusieurs reprises dans ce livre. On sent qu'il a trouvé cette veine qui est l'art de parler de choses très importantes avec des choses apparemment secondaire et dérisoire, et ça donne un livre que je trouve absolument remarquable.
Mais c'est vrai qu'on a parlé ici du Traquet kurde et que j'avais le pressentiment, les encraques, qu'on allait retrouver une scène similaire, qui est une sorte de montée sur une colline, enfin bon, qui se trouve à la fin du Traquet kurde. Et on vit presque la même chose, Elisabeth Philippe, aussi dans ce nouveau livre de Jean Rollin.
Oui, Crac pourrait presque former un diptyque avec le Traquet kurde, et ce qui est toujours extrêmement plaisant et même irrésistible chez Jean Rollin, c'est que les prétextes qui déclenchent l'aventure sont toujours en apparence anodins, très fantaisistes. Donc le Traquet kurde était la présence totalement insolite de ce petit oiseau du Moyen-Orient en Auvergne et qui faisait, qui lançait Jean Rollin sur ses traces. Et là, cette fois, c'est effectivement, il s'est baigné à Dinard.
Moi aussi.
Et on partage le même goût pour les baignades. Ouais. Donc évidemment, tout ça donne à Rollin un côté assez burlesque. On dirait presque même un Buster Keaton en goguette, en reportage. Notamment, il se met en scène de façon assez hilarante. Il y a cette scène dans laquelle il chute. Il écrit « De mon point de vue, ce qui fait de Tripoli une ville incomparable à toute autre, c'est aussi que le mardi 7 octobre, me rendant à la citadelle, je me sois foulé la cheville puis étalé en pleine rue au milieu de la circulation dans le quartier des Souks, alors que je venais de remarquer successivement une banderole à l'effigie de Saddam Hussein et surchargée de cette maxime, les géants ne tombent que quand ils sont trahis. Puis, suspendu à la devanture d'une boutique dépourvue de vitrines et ouverte sur la rue, comme c'est l'usage au Moyen-Orient, une cage contenant un chardonneret. » Et on voit bien là, à travers l'extrait que j'ai choisi, aussi la phrase avec laquelle il nous balade, qui sinue, qui digresse allègrement, mais qui est toujours très tenue, très limpide. Et ça fait partie aussi du charme fou des livres de Jean Rollin. Donc effectivement, il y a ce personnage, celui du narrateur, donc de Jean Rollin, assez amusant, faussement désinvolte, parce qu'il n'est jamais dupe. Et on pourrait lui reprocher de se retrouver effectivement en Syrie, donc quand même sur ce terrain de guerre. Il est souvent escorté par des nervis du régime. Et finalement, de rester assez en retrait par rapport à ce qui se passe. Il nous dit peu de choses sur cette guerre. Mais comme il le dit dans le très très bon entretien qu'il a donné à l'Obs cette semaine, il dit très souvent, dans les zones de guerre, les gens mentent ou les gens racontent n'importe quoi. Et je pense que ce qu'on peut tout à fait reconnaître à Rollin, c'est de ne jamais raconter n'importe quoi. Quand il ne sait pas, il le dit. Et il a ce point de vue, voilà, un peu en retrait, un peu distant, avec cette forme d'ironie, cet humour, qui fait que l'air de rien, il nous fait passer quand même énormément de connaissances. C'est tout ça à travers un petit livre qui fait quoi, même pas 200 pages. Énormément de faits, énormément d'images, énormément de rencontres aussi avec des personnages qui, en quelques lignes, sont tout à fait bien campés. Il y a cet imam fou, ce gardien d'ermitage qui dit qu'il a vu des anges. Donc tout ça, c'est le charme unique de Jean Rollin.
Laurent Nunez, à présent sur Crack.
Oui, ça, on a l'impression que c'est un livre qui a été écrit en souriant. Et du coup, on le lit en souriant. C'est extrêmement fin. Vous savez, moi, j'ai l'impression qu'ils étaient amusés. On l'a dit parfois ici. Ça a été longtemps là. Il y a depuis quelques années en France la mode, pour les écrivains, de l'exofiction, c'est-à-dire de prendre un personnage important, de le mélanger à soi et de montrer les parallèles. Et là, il crée en effet un parallèle complètement risible, un peu surréaliste. Voilà, Dinard. Laurence était là, moi j'y suis. Donc ben voilà, allons-y. Et il fait une exofiction sur lui et il part ailleurs. On parlait il y a quelques minutes du Houellebecq. Pour moi, c'est l'anti-Houellebecq. Tout l'intéresse. Il grimpe.
Et je dirais même qu'il rend tout intéressant.
Mais évidemment.
Parce que franchement,
c'est le regard.
J'avais pas une passion pour les châteaux francs avant d'ouvrir ce livre, ni pour les traquets kurdes avant de lire le précédent. Et il arrive à nous passionner.
Même dans tous les dialogues, même quand il discute avec la directrice du musée.
Du crack.
Et voilà, il suffit. Même les incises sont drôles. C'est quand même. Il y a quand même. C'est un effort de style qui ne passe pas du tout comme un effort, mais qui est là. Qu'il faut le remarquer, c'est une Étienne l'a dit, c'est une promenade. On se promène en apprenant, mais alors plein de choses. Il y a des notes de bas de page très fines là, pour montrer comme le sérieux de cette promenade. C'est vraiment un livre qui montre ce qu'on peut faire de la littérature lorsqu'à la fois on y croit et lorsqu'on ne se prend pas non plus au sérieux. C'est vraiment il y a un plaisir du texte, là, qui est évident, et en effet, ça, on craque dans ce livre. C'est-à-dire qu'on accepte, enfin, de se laisser promener, dans le bon sens du terme.
Étienne de Montetti.
Il y a un passage que j'ai essayé de retrouver, là, à l'instant, j'en retrouve pas, mais où il voit des éoliennes qu'il compare à des géants qui sont soit debout, soit couchés, et ça a évidemment fait penser à Don Quichotte, et c'est véritablement ça, c'est-à-dire, c'est le promeneur qui hante, non pas la Mancha, mais en l'occurrence le Proche-Orient, et qui voit ce que personne ne voit, qui a sa propre interprétation des choses. Et cette image et cette comparaison d'un Don Quichotte avec sa folie, mais aussi ses visions et sa forte puissance littéraire, m'a beaucoup plu. C'est un merveilleux fil rouge, comme si Jean Rollin se mettait dans ce que Kundera avait appelé l'héritage décrié de Cervantes, c'est-à-dire la place à la fiction et à la force qu'a la fiction pour suggérer des choses que la réalité ne montre pas.
Elisabeth, Philippe.
Oui, il n'a absolument pas besoin de s'apesantir sur le tragique, parce qu'on parle évidemment de cette légèreté, de ce sourire que suscitent ses phrases, son ironie extrêmement élégante. Et en même temps, comme je disais, il n'est dupe de rien, c'est un ancien grand reporter, Jean Rollin,
qui
cite beaucoup Jean Hatzfeld.
Et
cela, ça apparaît à travers des petites notations. Par exemple, il dit, oui, les gens me racontaient que les rebelles avaient occupé tel fort et qu'ils jouaient au ballon, au foot, avec les têtes en guise de ballon. Et il dit, oui, bah, ce coup-là, c'est bon, on me l'a déjà fait. Et ça passe comme ça. Et on sent quand même aussi une forme de... c'est même plus que du désenchantement. Enfin, sa foi dans la nature humaine, on se fait pas beaucoup d'illusions. D'où aussi toujours ce recul. Tout d'un coup, ce regard qui va se porter plutôt sur le paysage ou sur les oiseaux, qui sont encore une fois très, très présents.
Ça finit même par un oiseau.
Et donc, voilà... contrairement à Houellebecq, même si on, il faut pas comparer les livres, mais je trouve que c'est très juste. C'est, il n'a pas besoin de s'apesantir et cette ce tragique, il arrive à le faire passer autrement sans que ce soit jamais plombé ou lesté.
Un dernier mot, Laurent Nunez.
Ouais, c'est une vraie discussion avec les êtres, avec les animaux, avec les chaînes qu'on abat. Voilà, ça il discute avec l'ensemble du monde.
C'est un beau programme. Pour ce nouveau livre de Jean Rollin, Crac, publié chez POL. Et c'est le moment du coup de cœur d'Étienne de Montetti ce soir pour La vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli chez Grasset. De quoi s'agit-il, Étienne ?
Mais comme son titre l'indique, c'est La vraie vie de Vinteuil.
D'accord. Jusque-là, j'avais
d'autres
bon.
D'autres questions ?
Oui.
Non.
Alors c'est quoi La vraie vie de Vinteuil ?
Eh bien, personne ne sait grand-chose. On sait que Vinteuil est un personnage qui passe dans l'œuvre de Proust, la fameuse sonate de Vinteuil, mais on ne sait rien finalement de lui. On sait sauf qu'il a simplement qu'il a une fille, qui dans la deuxième partie de la recherche jouera un rôle, mais Vinteuil c'est essentiellement sa sonate, et l'effet que produit la sonate, et la petite phrase, hein, la petite partie de cette sonate sur Odette et Swann. Et Jérôme Bastianelli est parti dans un jeu, un peu à la Borges justement, d'imaginer ce qu'allait être la vie de Vinteuil, et il en fait un personnage clé de la vie artistique et musicale du 19e siècle. C'est apparemment l'auteur, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, mais apparemment c'est un musicologue fin, puisqu'il il insère véritablement, qu'on le ferait d'un bijou au milieu d'un dispositif déjà très très installé, il insère Vinteuil dans la vie musicale de l'époque, ses rapports avec Fauré, sa découverte de Wagner. Proust évoque la Vinteuil-Wagner en quelques lignes. Bastianelli va raconter le détail de cette découverte par Vinteuil de la musique de Wagner ou de la musique de Bizet ou du café-concert. C'est un exercice de style, c'est très amusant, c'est très érudit. Les renvois à la recherche sont très savoureux, toujours, parce qu'en réalité, Proust a évidemment inventé Vinteuil, hein, il donne le sentiment que Proust a puisé dans la vie de Vinteuil, et il évoque des mémoires de Vinteuil, qui s'appellent « Les mémoires de mon père » que sa fille a fait éditer, et donc il fait de Proust quelqu'un qui aurait puisé dans ce folie. Il y a un exercice de miroir, tout ça est érudit, tout ça est savoureux, c'est une véritable réussite. Et j'ajoute, parce que je pense que la recherche peut faire peur, peut impressionner, et il faut pas être ni proustologue, ni proustomane, ni spécialiste de Proust pour véritablement savourer ce livre.
Précision utile. Le livre, c'est La vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli, publié chez Grasset.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier ouvrage à notre sommaire ce soir, c'est Antonia, journal 1965-1966 de Gabriella Zalapi, publié chez Zoé Éditions. Il s'agit du premier roman de cette artiste plasticienne anglo-italo-suisse. Sauf erreur de ma part, parce que j'en ai pas trouvé d'occurrence, elle a écrit directement en français. Ce n'est pas une traduction, mais c'est bien sa langue qui est ici dans les pages de ce livre pour raconter ses histoires. Ce journal, donc, nous sommes à Palerme. La première entrée de ce journal se situe le 21 février 1965. Il paraît qu'un jour on se réveille affamé de ne pas avoir été ce que l'on souhaite. Où ai-je lu cette phrase ? Depuis, au lever, je regarde autrement ce qui m'entoure. Le monde prend de l'ampleur, du volume, une odeur. Ce petit miracle s'évanouit très vite pour être remplacé par une implacable journée ligne. Mon mariage n'est pas celui que j'espérais. Depuis la naissance d'Arthur, il y a 8 ans, les attentions de Franco se sont effilochées. Il se regarde dans la glace le matin, ajuste sa mèche, sa cravate et part travailler en me saluant 1 fois sur 2. J'ai été d'une naïveté grotesque en l'épousant. Je suis simplement supposé obéir, entretenir la maison et superviser l'éducation de notre fils. Rien de plus. Je suis sa subordonnée, son obligée. » Lorsque j'ai évoqué mon envie de travailler, Franco a répondu « Mais que diraient les gens ? Tu as tout ce qu'il te faut ? Les femmes de ton rang s'occupent d'organiser des mondanités et tu as beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. » Il ne comprend rien, rien, rien. J'ai 29 ans. Mes désirs tombent, s'enfoncent dans l'insonore. Impossible d'envisager une vie de perfect housewife pour le restant de mes jours. J'aimerais abandonner ce corset, cette posture de femme de, mère de. Je ne veux plus faire semblant. Les premières entrées de ce journal d'Antonia que je viens de lire, et Antonia n'a pas de Captor X. Elisabeth.
Elle en aurait bien eu besoin. Donc j'ai choisi ce livre. Déjà, c'est un très beau livre.
Merci à vous. Déjà, je vous le dis tout de suite pour cette découverte.
Qui attire le regard parce qu'il y a cette photo en noir et blanc. Et il faut savoir que dans ce faux journal intime, on trouve également des clichés en noir et blanc qui vont émailler la narration. Alors, je pense qu'on l'aura compris à travers l'extrait que vous avez lu. Antonia, c'est l'histoire d'une lente et douloureuse émancipation d'une femme issue de la haute aristocratie, une femme au foyer, mariée à un homme qui la méprise, qui peut à peine s'occuper de, enfin, jouer son rôle de mère, puisqu'il y a la présence étouffante, angoissante de la nurse, qui ressemble à une sorte de Mrs. Denver, comme dans...
C'est pas la nurse, c'est nurse.
C'est nurse, comme dans Rebecca. Donc, ouais. C'est Antonia qui étouffe et qui veut absolument faire exploser cette camisole, comme elle dit, de perfect housewife, qui le quotidien qui est le sien, ces fameuses journées lignes dont elle parle, ces journées qui se ressemblent toutes, il se dégage de ces journées d'atmosphère extrêmement délétère, toxique. Elle compare le temps qui passe à du mercure. Donc il y a cette pesanteur et ce sentiment de délabrement, de dissolution qui est en plus accru par des très belles descriptions très très rapides, très vives de Palerme, aussi de la chaleur qui peut écraser la ville qui tombe en décrépitude. Et tout ça est raconté et dit d'une écriture assez blanche, assez simple, mais lacérée parfois de formules extrêmement tranchantes, de phrases très très violentes et très belles. Moi, quand vous avez lu ce passage, mes désirs s'enfoncent dans l'insonore. L'emploi même du mot insonore, assez rare, je trouve extrêmement beau. Donc on est tenu comme ça par cette langue et pour tenter de se sortir de ce quotidien, de ces journées lignes, Antonia va se plonger dans le passé, dans les photos de sa grand-mère, Nonna, qui incarne le monde d'hier, au sens où Stefan Zweig l'entendait. Et effectivement, ce monde d'hier est très présent, puisque c'est à la fois sa famille, ses aïeux, ce sont à la fois des très riches aristocrates anglo-italiens, mais aussi des intellectuels juifs de Vienne. Son père, à elle, est mort pendant la guerre. Son grand-père a failli périr dans les camps. Donc tout ce décor d'un monde ancien et disparu la hante, et c'est aussi un roman de deuil. Et d'ailleurs, à un moment, elle dit qu'elle pose des voiles noires sur les miroirs, et c'est le deuil de ce monde, c'est le deuil de ce passé. Et puis c'est ce sentiment d'étrangeté qui est le sien, l'impression d'être étrangère, elle qui n'a jamais vraiment eu de lieu à elle, qui a vécu entre les Bahamas, Genève, l'Italie, l'Angleterre, et qui là se retrouve sans identité dans cette famille, dans ce foyer, qui va tenter d'en sortir.
Laurent Nunez, premier regard sur cette Antonia, journal 65-66.
Oui. Tout d'abord, c'est très bien de faire ce livre à la toute fin de l'émission, c'est comme ça les auditeurs peuvent se précipiter jusqu'après en librairie pour l'acheter. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Mrs. Dalloway en Italie. C'est un roman sous forme de journal. Parfois, on oublie que c'est un roman. On a l'impression que c'est vrai. Et avec un réel effort d'écriture, à tel point parfois que même la liste de ce qu'elle mange devient un poème.
Quand elle fait le régime.
Oui. Voilà. L'histoire est simple, c'est ça. C'est une femme qui... À la fin, il y a un arbre généalogique pour qu'on puisse se repérer. À la fin, c'est une femme qui ne supporte plus tout ce qu'elle entend. On n'arrête pas de lui dire « ne bouge plus ». Elle est mariée à Franco, quelqu'un qui a ce nom-là déjà. C'est dur de l'écouter sans être terrorisé. Son grand-père a beaucoup changé, voilà, il incarnait une possibilité de fuite et il lui dit stop, ne respire plus, reste là, reste à ta place. Mmh. Et elle va être obligée d'aller puiser d'autres paroles. Des paroles anciennes, un héritage, des mâles, elle ouvre. Il y a des lettres qui ne la concernent pas, enfin qui n'étaient pas pour elle. Mmh. Il y a des photos qui n'étaient pas pour elle. Et elle dévoile tout ça et elle y lit quelque chose pour elle. C'est-à-dire qu'à partir de ce passé, elle crée un futur. Et elle nous implique, nous-mêmes, on lit ces lettres qui ne sont pas pour nous. On voit ces photos. Alors c'est génial parce qu'il y a des vraies photos. Il y a des photos. On se met vraiment à les regarder, à scruter ces gens qui incarnent le passé. Et on se met à essayer de comprendre comment le futur va arriver à partir de ce passé qui est en noir et blanc, qu'on croit figé et mort. Et c'est un symbolique parce qu'à la fin, ça fonctionne. Allez, je souris en le disant parce que je suis heureux pour elle.
Bon, n'en dites pas trop. Je suis pas sûr. Est-ce qu'Étienne de Montetti est heureux? Il a l'air un peu circonspect devant nos éloges.
J'ai trouvé ça charmant. Ah,
c'est bien ce que je sentais.
Non, pas du tout. C'est assez charmant. Et dès qu'on s'est avisé des quelques défauts de ce livre, il est déjà terminé, donc c'est pas très grave. mais ça se lit. Je fais pas d'ironie, ça se lit de manière.
De l'autre côté. Welbeckien, ça.
Agréable. Je ne suis pas sûr que cette recherche de l'émancipation soit très, très originale. J'ai vécu un peu comme une frustration, cet art qui est assumé, d'une forme d'ellipse qui fait que, effectivement, l'environnement familial est assez complexe, puisqu'on va à Vienne, puisqu'on va à Nassau, puisqu'on est à Palerme, puisqu'on va à Genève, et qu'elle ouvre un peu des placards avec un passé, une histoire familiale extrêmement riche et passionnante, et elle nous en donne peut-être pas tout à fait assez. Ce qui m'a davantage agacé, et assez vite, c'est que cette émancipation passe quand même par une détestation assez générale de son entourage. Alors, on va dire que c'était évidemment mérité, mais sa mère, son grand-père, la nurse, effectivement. Et puis, pas de chance, il y a un beau-père, mais il s'avère pédophile, mon Dieu, mais elle a vraiment pas de chance, la malheureuse. Et c'est un peu dommage que son envie d'émancipation ne se passe pas par la recherche. Ça va survenir à la fin d'une autre vie.
Pas tout divulgaché, hein. Vous avez déjà lâché un grand scoop, hein.
D'une autre vie. Ben oui, mais c'est quand même un peu ça. C'est dommage que la détestation occupe une place aussi importante. Et je trouve que ça en fait pas un personnage extrêmement sympathique. Sauf quand elle se plonge, effectivement, dans son passé, avec notamment une évocation d'une maison qui est pour elle, le lien à l'enfance, le lien aussi avec son père, tout ça est assez charmant. Mais en revanche, le regard qu'elle pose vraiment sur son entourage en fait assez vite, je trouve, un personnage qui n'est pas très plaisant. Mais je ne veux pas être trop sévère parce qu'il y a énormément de charme dans ce livre qui se lit sans difficulté. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir mis une généalogie à la fin soit un hommage pour la clarté de la narration, entre parenthèses.
Oui, moi j'en avais nullement besoin, sauf qu'il y a une information dans cet arbre qui est intéressante parce qu'elle reste comme un mystère. Si vous êtes tous en train de regarder du coup, je vous dirai ça après l'émission. Oui, si, quand même. Bon, bref, moi je n'avais pas besoin de cet arbre et je pense qu'il est là justement pour cette information qui nous est divulguée. Pour n'être pas originale, elle n'en est pas moins belle, cette histoire d'émancipation, me semble-t-il, Étienne de Montetti, et la question de savoir si elle n'est pas plaisante, je crois que c'est surtout sa vie qui n'est vraiment pas plaisante, et je trouve que c'est décrit d'une façon émouvante, poignante par moment. Il y a quelque chose des sensations physiques qui sont quand même très bien décrites, ressenties par le lecteur, en tout cas que j'ai été. Et même si effectivement on lui propose un médicament révolutionnaire, des antidépresseurs, le 19 septembre 65, elle ne choisira pas cette voie, mais une autre forme d'antidépresseur. On n'en dira pas plus, mais on a le sourire, n'est-ce pas, Laurent Nunez? Mais il y a vraiment aussi d'autres pages très belles. Et la place de l'écriture aussi comme moyen d'émancipation, là, c'est pas du tout appuyé pour le coup, là c'est très discret, mais il y a quelques notations sur le fait que écrire et tenir ce journal, ça participe peut-être quand même de la possibilité de continuer à vivre. Et moi j'ai été vraiment très, très touché par ce livre. J'avoue que je ne connaissais pas son auteur, ni pour ses autres travaux de plasticienne, et que maintenant j'ai envie d'en savoir plus sur Gabriela Zalapi. Elisabeth
Philippe. Oui, il y a toute une atmosphère en fait dans ce livre. Je peux comprendre les défauts que vous pointez, Étienne.
Il y en a avec lesquels je suis d'accord.
C'est vrai qu'à un moment il y a un peu une surcharge, mais c'est compensé par une écriture qui, elle, n'est jamais, je trouve, surchargée, qui me rappelle un peu qui peut rappeler un peu la simplicité, par exemple, la fausse simplicité d'une Hélène Bessette. Le personnage n'est pas totalement plaisant, mais un peu comme un personnage durassien. On pourrait penser à Anne Desbarèdes dans Moderato Cantabile. Et surtout, moi, je trouve que ce livre, il y a quand même cette élégance aristocratique, mais en pleine déchéance, qui pourrait être un peu la suite du Guépard de Lampedusa, où on retrouve un peu aussi la beauté au bord de la décrépitude du Jardin des Finzi Contini aussi. Je trouve qu'il y a ces images-là qui viennent à l'esprit quand on lit ce livre, et c'est ce qui lui donne beaucoup de charme. Et puis, c'est un dispositif qui, certes, n'est pas d'une originalité folle, encore une fois, de mettre ses photos, de mélanger la fiction et le faux journal intime et les vraies photos, mais ça m'a rappelé. Je trouve que c'est des dispositifs qui rappellent un peu l'art contemporain, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de cette artiste Zoé Leonard, cette américaine qui avait recréé le personnage d'une femme noire américaine, une actrice africaine-américaine, et ça s'appelait The Watermelon Woman. Et je trouve que ça dit certainement quelque chose, le fait qu'on soit obligé de passer par la fiction pour recréer des personnages de femmes qui n'avaient pas d'existence à l'époque, qui étaient enfermées dans leur quotidien, dans leur foyer. Et je pense que ce journal s'inscrit dans ce type de travaux.
Étienne de Montetier.
Oui, j'entends tout ça. Encore une fois, je ne veux pas m'acharner. C'est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir. Et simplement, il y a quelques défauts que je voulais signaler, mais on le lit d'une traite avec beaucoup de plaisir.
Laurent Nunez.
Oui, moi, par coïncidence, alors que je lisais ce livre qui est un savant mélange, enfin un mélange assez plaisant de photos et de textes, je lisais un autre essai qui paraît la semaine prochaine de Clément Bénèche, qui est Une essentielle fragilité. Et c'est un livre qui s'intéresse aux images dans le roman. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre des images dans le roman? Et ce livre-là d'Antonia montre que oui, on peut, sans rien gâcher. Vous savez, Flaubert refusait à chaque fois en disant qu'il ne s'embêtait pas à décrire pour que quelqu'un vienne un peu saloper son travail. C'est ses propres termes à peu près. Là, vraiment, j'ai découvert une façon de narrer assez nouvelle et qui mariait bien les deux que j'aurais cru antagonistes. Donc voilà, pour moi, elle est. En plus, c'est un roman qui est complètement dans l'esthétique contemporaine.
Oui, parce qu'il y a des photos dans le livre qui sont décrites, enfin où il est fait, auxquelles il est fait clairement allusion, d'autres qui sont beaucoup plus énigmatiques, et la fiction est absolument enrichie par ces photographies dont on ne connaît évidemment pas l'origine. Ça rajoute au plaisir de cette lecture. Elisabeth Philippe,
vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, 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 on a fait le tour.
Il semblait que vous aviez l'envie de dire encore quelque chose.
Non, j'opinais.
Bon, opiner, c'est bien. J'en profite quand même du coup, il me reste quelques secondes pour lire une autre entrée de ce livre, Antonia, de Gabriela Zalapi. C'est l'entrée du 1er mars 66. Les autres confirment le monde à coups de talons, à coups de poignées de main, à coups d'enjambées confiantes, à coups de sourires efficaces. Moi, j'hésite. Je danse d'un pied à l'autre sans m'arrêter. Je doute, confuse, incapable de donner des explications claires, des réponses rationnelles. Je m'empêtre dans mon vocabulaire. Je m'arrête soudain à la recherche d'un mot. Celui-là, celui qui m'échappe. Vous validez cet extrait?
Il n'y a pas un mot de trop.
Ben non. C'est un peu... Bon.
Il en manque un peu quand même.
Ah, voilà, évidemment.
Fallait finir là-dessus. Antonia, aux éditions Zoé, ce livre de Gabriela Zalapi. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure de retrouver Sarah Dion qui nous rejoint chaque soir dans ce studio pour parler des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Je vais dire dans un instant, d'abord on va se rappeler la question d'hier soir, Sarah, et vous allez nous donner sa réponse même.
La question d'hier était: quel prix le film Border a-t-il remporté à l'occasion du dernier festival de Cannes? Et la réponse est le prix Un certain regard.
Et nous parlons de ce film, me semble-t-il, demain, non, dans la dispute? Je crois bien, c'est marqué en dessous. Ah oui, c'est ça, on en parle demain. Ce soir, des invitations à gagner pour découvrir le musée de l'armée et ses expositions jusqu'au 2 avril. C'est à l'Hôtel National des Invalides à Paris. Quelle est la question, Sarah?
Quel monarque a ordonné la construction de l'Hôtel des Invalides?
Ça, Ça, c'est dur comme question. Alors, votre réponse, vous nous l'envoyez, si vous l'avez, hein, bien sûr, avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Nous nous retrouvons donc demain à 19h au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute consacrée au cinéma. Nous serons en compagnie de Lily Bloom, Florence Colombani et Philippe Azoury. À notre affiche, alors comme je l'ai dit, Border, d'Ali Abbasi. Nous parlerons également de An Elephant Sitting Still de Roubaud, de In My Room de Ulrich Köhler. Il y aura non pas un coup de cœur demain, mais un coup de gueule de Lily Bloom consacré au film Glace.